Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffier-Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Professeur Alou Kwame René, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous m'invitez souvent quand il y a des soutenances des thèses. C'est un honneur pour moi. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un peuple, je dirais, un peu spécial comme les Agwa. Je veux parler des Aïzi. Les Aïzi, j'ai été dans le village de Ningissa. J'ai été à Tutu-A, qui a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture. J'avoue que je n'ai rien retenu de leur histoire totalement. Alors, professeur, nous sommes avec vous aujourd'hui encore. Ça fait plusieurs fois que nous venons. Vous nous avez ouvert grandement vos portes. Nous sommes avec vous pour parler des Aïzi, ce peuple un peu spécial.
Alors, les Aïzi, c'est un groupe important, bien qu'ils occupent quand même un territoire qui n'est pas très grand. Et le problème, souvent, c'est que dans ce petit espace Aïzi, on parle trois langues. Trois langues qui viennent de trois influences majeures. J'ai aujourd'hui un de mes assistants, le docteur Pété Eric, qui sous ma conduite a fait une thèse sur l'histoire des Aïzi, qui est une histoire très riche. Pour une thèse unique, mais c'est deux tomes qu'il a écrit sur les Aïzi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, comme je dirais, d'abord un soubassement de peuplement. Un soubassement, ce que j'appellerais un soubassement de peuplement. Parce que souvent, ce que les gens n'ont pas perçu, c'est que les fameux Wotili, ce n'est pas seulement la guerre qui faisait qu'ils se déplaçaient. Non, comme c'était des pêcheurs en lagune, ils exploraient les lagunes et aussi tous les cours d'eau qui viennent se jeter dans les lagunes de la partie sud-est et sud de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ainsi que certains se sont retrouvés en pays Aïzi, d'abord. Et ils ont été les autochtones du pays Ébrié. Je vous l'ai dit concernant les Brékégon. Et même, ils étaient les premiers dans ce qui va devenir le pays Adjoukou. Voilà, c'est ainsi que, explorant donc toutes ces zones-là, ils se sont installés d'abord. Et maintenant, d'autres groupes humains sont venus s'ajouter à eux. Même, vous parlant des Gwa, le fameux Gongondon, les Goun, ils sont d'extraction Éotilé. Voilà. Concernant le pays Aïzi, donc, je dirais que les Éotilés ont servi de soubassement. Et le nom Aïzi vient d'où? Ça vient de Eti, ça vient de Et. D'ailleurs, je vous ai dit que les Aïzi sont parmi les groupes autochtones du pays Fanti avant que les Borbores Fanti ne viennent de la région de Tachiman. Et quand ils sont arrivés en pays Éotilé, c'est leur nom même qui a fini par désigner, je peux dire, le surnom qu'on dit Aïzi en gamin bleu, c'est le nom Aïzi qu'on voit et c'est ça qui a donné le nom Aïzi. Si bien que les Aladjans appellent les Aïzi Azi, Aïzi, c'est-à-dire la tête. C'est qui était comme une tête de pont dans la migration. Et eux, justement, ils appellent les Aladjans Abré. Vous voyez le nom Abrem dont je vous ai parlé. Et c'est ainsi qu'ils se sont d'abord installés, ceux qui sont d'extraction Éotilé. Mais que les Éotilé ont appelé Pépéiré. On leur a donné le nom de Pépéiré. Eux, ils sont venus pratiquement au 13e siècle. Ils se sont installés en pays Aïzi. Mais au 14e siècle, on aura des groupes d'origine Krou. Un important groupe d'origine Krou. L'une de leurs zones où ils se sont beaucoup installés, c'est Lozoa. Et vous remarquerez que Lozoa, c'est un village d'Ida, mais qui est lagunaire. Donc, il y a eu aussi une importante migration de groupes venus de l'ouest de la Côte d'Ivoire, d'extraction Kourou, d'Ida en général, qui a fondu en pays Aïzi. Et quand ils sont arrivés, l'ancêtre qu'ils ont trouvé, qui était l'ancêtre, disons, des anciens Aïzi d'origine Pépéiré ou d'origine Éotilé, on l'appelait Aïkpaleba, l'ancêtre Aïkpaleba. Il était où? Il était à Tiagba. Mais en ce moment, le village ne s'appelait pas Tiagba. Le village s'appelait Kourobo. Kouro, c'est la oie. Vous connaissez la oie qui est comme le canard là. Et Gbo, c'est l'île. Dans la langue des Éotilé, comme de ces anciens Aïzi là, Gbo désigne l'île. Quand on dit Azigbo, Boulé, l'île des Aïzi. Betigbo, dans la région de Vitré ici, ça veut dire l'île des Beti, l'île des Éotilé. Gbo, ça veut dire l'île. Donc l'île s'appelait Kourobo, l'île aux oies. C'était là-bas qu'il était installé. Quand les ancêtres d'origine Didakuru sont venus le trouver, qui sont venus massivement. Et si bien que la langue d'Aïzi les plus anciens d'extraction de Wotile s'appelle Apro. C'est la langue Apro. Qui est une langue quoi? Qui est une variante de la langue Ewotile. Maintenant, les groupes d'origine Dida, qui sont venus aussi très nombreux, qui ont peuplé aussi plusieurs villages, se sont installés dans différents villages, dont Krobo, qui est devenu Tiaba, et leur langue a donné le Lelou. Donc, je peux dire le brassage de cette langue d'origine Kru et puis d'autres langues, ça a donné le Lelou. Donc, c'est bien qu'en pays Aïzi, on a trois variantes de langue. On a l'Apro, qui est une variante de l'Ewotile, donc une langue d'extraction quoi, la famille quoi, la famille linguistique quoi. Vous avez le Lelou, qui est plus proche des langues Kru. Et puis, enfin, vous avez le Mobu, qui se parle dans deux villages seulement. Abrako et puis Abranyanyambo. Pourquoi? Parce que justement, les futurs Aladjans ont vécu dans la zone d'Abrako et d'Abranyanyambo. Il y avait une île là qu'on appelle l'île Kouvé. Les Aladjans ont séjourné là longtemps avant d'aller créer les différents villages qu'on connaît. Voilà, Bodoladjan, voilà, Mokwa ou Jacquesville, Bodoladjan ou Grand Jacques, et puis tous les autres villages que vous connaissez. Donc, si bien que le Mobu, en fait, est lié, il y a une partie de la langue Aladjan, et puis quelques mots aussi, Kourou, et c'est ainsi que sur ce petit espace lagunaire là, il y a trois langues, le Mobu qui est parlé Abrako, Abranyanyambo. Vous avez le Lelou, puis vous avez l'Apro.
Et ces trois groupes se comprennent?
Alors là, pas du tout. Il n'y a pas d'intercompréhension. Il peut y avoir quelques mots qui sont identiques, quelques phrases qu'on peut saisir au volet, mais ce sont vraiment des langues autonomes.
Et c'est tous des Aïzi?
C'est tous des Aïzi. Pourquoi? Parce que finalement, eux tous, même ceux qui sont venus du pays Didakuru, qui se sont installés, mais venant du pays Didakuru, en principe, c'était des chasseurs, c'était des agriculteurs. Ils se sont reconvertis pêcheurs. Ils sont devenus des pêcheurs. Donc, la pêche est devenue leur activité principale. Voilà, et c'est par la pêche qu'ils se sont finalement identifiés. Si bien qu'au départ, ils ne se sont même pas beaucoup intéressés à l'agriculture. C'était juste ce qu'il fallait pour la nourriture, c'est-à-dire pour l'autosuffisance alimentaire. Et puis, c'est la pêche, c'est sur la pêche qui mettait l'accent.
Il y a des raisons qui ont poussé l'administration à mettre les Aïzi. Par exemple, pour aller à Nigisaf, il faut prendre la route qui mène à Grand Laou. Les Aïzi, on les a mis dans la sous-préfecture de Jacquesville pendant de nombreuses années.
Oui, mais vous savez, les Européens, au départ, l'administration coloniale, ils recherchaient la localité la plus attractive au plan économique. C'était comme ça. Et puis, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, une partie des ancêtres des Aladjans est restée à Abrako et à Abranyanyambo. C'est important. C'est pour ça qu'il y a eu un député de Jacquesville, vous le connaissez, je ne veux pas dire son nom. Il était d'Abrako, mais il était député de Jacquesville. Pourquoi? Les Aladjans de Jacquesville auraient pu dire, nous, on veut un fils de chez nous pour être notre député. Mais comme ils savent que les ancêtres ont vécu à Abrako, à Abranyanyambo, donc ils savent que c'est un de leurs parents. Vous comprenez? Ça aussi, c'est l'histoire. Parce que les gens s'en souviennent.
Et Abrako et Abranyanyambo, c'est des villages qui sont séparés seulement peut-être par 3 kilomètres. Hein. C'est presque les mêmes villages, hein, et ils sont au bord de la lagune. Comme vous avez dit, ils ont choisi la pêche. Je suis allé deux fois à Abrako, je suis allé à Nigisaf, je suis allé à Atutu-A, et franchement, je n'avais jamais pensé qu'il y a trois groupes qui parlent chacun sa langue, et puis ils forment le Aïzi.
Oui, ils forment un espace, je dirais, de culture, je peux dire culturel d'abord, et puis un espace économique centré sur les ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche. Et puis, il y avait anciennement, bon, les choses ont changé, mais il y avait anciennement le mode d'architecture, le type d'architecture de Kasupiloti.
En parlant de Tiaba.
En parlant de Tiaba, qui est l'héritage justement éotilé, parce que c'est ça rend plus pratique le travail. Ouais, il y en a au Bénin, oui, il y a le village de Ganvier au Bénin, le village s'appelle Ganvier, où on a les cases supilotées. Mais on en trouve même en Asie. Donc vous voyez, Dieu peut donner la connaissance d'un fait à des peuples qui sont très éloignés les uns des autres. Bon, maintenant, si peut-être historiquement, on peut peut-être voir s'il y a des liens, mais là aussi, ça aura fait l'objet d'études, mais bon. Je sais qu'à Ganvier, hein, au Bénin, ils ont des cases supilotées, comme on en trouve à Tiaba, ou comme on en trouve dans les villages Ewotile.
Et c'est vrai, les Aïzi, ils m'ont dit à Atutu-A, ils m'ont dit à Nigisaf, leur histoire se rapproche vraiment des Ewotile. Ils m'ont dit que quand un enfant est né, il est bébé, il a à peine une semaine, on peut le mettre sur la lagune et il ne va pas se noyer.
Bon, si on voit des rires, je m'excuse auprès des auditeurs. Vous voyez, c'est cette phrase-là aussi qui est dite par les Voutilés. Vous voyez. Moi, personnellement, je n'ai pas assisté à ce rituel. Est-ce que c'est un rituel? En fait, sans doute, ça renvoie à un rituel. Voilà, ça renvoie à un rituel. Mais est-ce que physiquement, quand on pose l'enfant sur l'eau, il ne s'enfonce pas? Vraiment, j'ai des doutes que vraiment la loi physique soit ainsi transgressée. Mais bon, et ils y croient parce que c'est un rituel, en fait, puisque souvent, les génies sont des génies de la lagune. Donc, ils sont convaincus que ces esprits de la lagune les protègent et donc protègent leur bébé. Donc, c'est comme si, en faisant ce rituel, ils confient l'enfant qui vient de naître aux esprits de la lagune pour dire, vous voyez, notre enfant, nous le confions parce que nous-mêmes, nous sommes confiés à vous pour notre protection, pour ne pas qu'un seul de nos enfants meure noyé dans la lagune. Mais en réalité, très tôt, les enfants de cet espace-là apprennent à nager. Très tôt. Donc, cette proximité avec la lagune fait que vraiment, c'est rare qu'il y ait ainsi des noyades. Voilà. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on ne fait pas ça. Donc, les enfants, quand ils ne savent pas nager, mais sinon, anciennement, les anciens veillaient à ce que très tôt, les enfants sachent nager et sachent pratiquer tout ce qui est lié à l'univers de la lagune.
Les Aïzis sont proches des Odjoukourou, ils sont proches des Aladians. Avec les Aladians, ils ont longtemps collaboré. Est-ce que les Aïzis n'ont jamais eu d'histoire, de palabres avec leurs voisins?
En fait, très souvent, le problème, c'est la lagune. Puisque le principal intérêt économique, c'était la lagune. Et c'est ça qui crée des problèmes. Notamment ce qu'on appelle, ce que les auteurs appellent les attraits, c'est-à-dire les baies lagunaires. Parce que c'est dans les baies lagunaires, en fait, que les poissons vont se reproduire. En général, on évite de pêcher dans les baies. Ça, c'était une règle que ces populations lagunaires respectaient. Parce que c'est là que les poissons vont se reproduire. Donc, il ne faut pas aller pêcher là-bas. Donc, c'est à des occasions particulières. Quand, par exemple, il y a des rituels à faire, il y a une grande fête, ou bien il y a un grand personnage qui arrive qu'on doit l'accueillir, en ce moment-là, spécialement, on va pêcher dans la baie lagunaire. Et quelquefois, les baies étaient réparties entre familles. Donc, il y avait une compétition entre les familles pour avoir plus de baies. Et c'est là où ils pouvaient avoir des palabres. Et c'est ça qui créait souvent des palabres.
Leur culture est née donc du Mapuka. Le Mapuka, on nous a présenté ça plusieurs fois. Ils ont fait un tour en Afrique du Sud. Et c'est grâce au docteur Pité. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Le Mapuka est né donc à Nigisaf.
Oui, en fait, ce n'est pas seulement ça qui fait leur culture. Hein. Leur culture est plus vaste. Mais cette danse, je peux dire que la femme montre, fait vraiment des poses plastiques pour montrer toute la grâce du corps féminin, toute la beauté du corps féminin, c'est ça qui s'exprime dans le Mapuka et c'est ça qui fait la beauté de cette danse. Mais quand les hommes, eux, ils exécutent cette danse, c'est plutôt le côté rigide. L'homme montre le côté rigide, la femme montre le côté gracieux, le côté plastique. Et c'est ça un peu qui a gêné des gens. Mais d'autres en ont fait autre chose. Et c'est ça qui est vraiment embêtant. Sinon, cette danse est vraiment une belle danse de réjouissance hein, qu'on a en pays Haïti. Il y a bien d'autres danses en pays Haïti. Il y a bien d'autres danses. Par exemple, il y a des danses qui sont exécutées par les anciens. Et même quand les anciens sont honorés et qu'il y a un rite qui est fait, on dit que l'ancien est devenu comme un grand tambour. Vous voyez? Les grands tambours qui sont vénérés dans les royaumes Akan, chez les Aïzi, quand un ancien atteint un certain niveau, je peux dire d'expression de son âge, on fait un rituel qui fait qu'on dit que l'ancien là est devenu un grand tambour. Il est vénéré et très respecté. Ça aussi, c'est un des aspects de leur culture. Ils ont plusieurs aspects de leur culture.
Pour faire un rapprochement, les Odjoukro aussi, on a une fête pour vénérer les anciens. Est-ce que c'est pas dans cette culture qu'ils ont puisé ce que vous dites?
Non, les Odjoukro, ça, on appelle ça les Beb. Mais c'est le même principe. Vous savez, sur tout cet espace lagunaire, il y avait non seulement la circulation des hommes, il y avait la circulation des idées, des connaissances, de la culture, des rites et des brassages. Donc, c'est un espace où tout circulait. Les hommes circulent, la culture circule et les connaissances circulent. C'est comme ça. Vous voyez, par exemple, l'arrivée des groupes d'origine Kourou a fait que dans ces zones-là, il y a des endroits où on pratique la chasse au filet. Chez les Adjoukou pratiquent la chasse au filet. Même certains habits qui font la chasse au filet. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles d'origine Kourou. Par exemple, la famille Ogbrougbrou est une famille d'origine Kourou. Voilà, qui est aussi en pays Adjoukou, en pays Abé, en pays Abidji, en pays Aïzi aussi. on les retrouve. Donc, c'est toute cette circulation-là qui fait qu'il y a différentes expressions culturelles qui avaient cours dans ces régions-là.
L'histoire donc de Haïti, c'est une histoire qui commence où?
Bon, il faut savoir que certains groupes Haïti sont passés par le pays hébrié. Notamment, c'était des Brékégons. D'ailleurs, ils ont parlé de la guerre contre les Hébriers. Mais en fait, c'était la guerre contre les Cobrimans qui, en ce moment-là, voulaient s'installer dans la région. Et certains, donc, ont quitté leurs frères Brékégons et puis ils sont venus s'installer en pays Haïti, où ils ont perpétué même la connaissance de l'architecture des cases sur pilotis. Si bien qu'ils disent que nos ancêtres ont toujours été des pêcheurs qu'on nous appelle Mungu. Anciennement, on nous appelle Mungu parce que c'est toujours la pêche que nos ancêtres pratiquaient. Donc, vous voyez qu'il y a cette culture de base Otilé, il y a la culture de base aussi Kourou qui est venue s'ajouter à cela. Et puis, vous avez les importants Aladjan qui sont passés par les zones de Abrako et Abra-Nyanabo. D'ailleurs, mais vous remarquerez que les Aladjan s'estiment être les civilisateurs de la côte. Ah oui, ça, ils sont convaincus qu'eux, ils sont les civilisateurs de la côte. Vous voyez, bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils essaient.
Ils ont eu très tôt des contacts avec les Anglais, les Portugais, Grand Jacques, Big Jacques.
Non, ce n'est pas par rapport à leur relation avec les... En ce moment, ce n'était pas encore la colonisation. Mais avec les compagnies européennes. Les compagnies européennes qui commerçaient sur la côte. Parce que n'oublions pas que sur toute cette côte-là même, c'est la Guinée et ensuite ceux qui sont plus proches de l'océan comme les Aladjans. Ils estimaient que les produits anglais étaient de meilleure qualité que les produits français. Ah oui, ça c'est une réalité. Mais il n'y avait pas que les produits anglais. Il y avait les produits hollandais, il y avait les Danois, il y avait les Portugais, même qui, bien qu'étant ayant été évincés de leur fort par les Hollandais, continuaient de commercer. Même à un moment donné, même des Brésiliens venaient commercer grandement sur la côte. Donc, il y a cela. Mais ce n'est pas pour ça que les Aladjans disent ça. C'est parce que les Aladjans étaient convaincus de la grandeur de leur culture. Mais dans le fond, leur culture n'est pas si différente de celle de leurs frères de la lagune. Elle n'est pas si différente.
On parle toujours d'organisation. Ils sont arrivés, ils ne se sont pas laissés comme ça à leurs voisins. Ils doivent peut-être s'organiser en chefferie, en groupe. Est-ce que vous pouvez en parler?
En fait, les Haïti chez eux, là aussi, comme en pays Abidji, les villages étaient indépendants les uns des autres. Et c'est les chefs de terre qui exerçaient le pouvoir dans les villages. Mais il y avait aussi l'importante institution de la classe d'âge. Voilà, c'est une institution importante qu'on retrouve dans presque tous les peuples à Caen-la-Gunère. Il y avait l'importante institution de la classe d'âge. Ça, c'est fondamental. Et puis maintenant, il y a l'institution aussi des lignages. Mais il faut remarquer que il y a un pays Haïti, c'était surtout des matrilignages, mais il y a quelques villages qui pratiquaient la patrilinéarie.
Compte tenu de leurs origines?
Non, pas forcément compte tenu de leurs origines, mais c'était aussi quelquefois pour des questions pratiques. Oui, c'était pour des questions pratiques parce que de toutes les façons, c'est vrai, c'est d'abord les biens matériels d'abord sont entre les mains des hommes. Dans le cadre de la matrilinéarité, par rapport à la lignée maternelle, cela est cédé aux frères utérins ou bien au neveu utérin, mais certains ont jugé bon de pratiquer la patrilinéarité parce que pour eux, ils trouvent que c'est plus efficace dans la transmission des biens. Voilà, c'est tout.
Bien, on a presque fait le tour du pays Haïti. Et sur le plan traditionnel encore, quels sont les villages qu'on citait régulièrement qui étaient presque considérés comme des capitales ou bien des centres?
En réalité, l'importance des villages a évolué avec le temps. Il faut comprendre ça. Anciennement, il y avait des villages qui avaient beaucoup d'importance qui ont perdu cette importance-là par la suite pour différentes raisons. Voilà, parce qu'à l'époque coloniale, il fallait trouver les moyens d'avoir accès plus facilement aux zones qui étaient les chefs-lieux. En partie de ce moment, les villages qui sont plus proches des zones de chef-lieu bénéficient alors, je peux dire, d'une situation qui leur est favorable. Mais sinon, anciennement, un village comme Tchagba, mais c'était un village important, un pays a existé. C'était un village très important.
Le village lacustre.
Voilà. Par exemple, Ningui Saf, Ningui Asoko, bon, comme je l'ai expliqué, c'est Nundju. Nundju Saf. Nundju Asafo. En fait, Saf, ça vient de Asafo. Vous savez ce que Asafo veut dire? Asafo, c'est les guerriers. Voilà. C'est pour ça que vous avez en langue cuite Asafohene ou Safohene. Voilà. C'est Nundju Asafo. Donc, Nundju, c'était le nom d'une classe d'âge. Nundju Asoko. Asoko, pourquoi Asoko? Par rapport à l'Asoko du pays et Otile. Par rapport à l'Asoko du pays et Otile. Puisque en fait, sur l'île d'Asoko Monoba, il y avait la partie Asoko et puis il y avait Monoba parce que c'est de là que ceux qui sont surtout, qui ont servi de soubassement au peuplement Aizi sont partis du pays Wotile. Et donc, ils se souviennent encore de ce nom Asoko.
Bien, le tour est bien fait. Nous avons presque tout dit, mais quelque chose me dit que nous n'avons pas tout dit. Qu'est-ce qui fait leur force, les Ningui Saf? Ils n'ont pas cherché à s'unir parce qu'ils venaient de différents groupes, chacun a sa langue. Et qu'est-ce qui faisait l'unité un peu de ce groupe longtemps Aizi?
Mais l'unité, c'est l'espace géographique. C'est l'espace, parce que l'espace aussi est très important. C'est l'espace. Parce qu'à eux tous, ils savent que leur trésor, c'est d'abord la lagune. Et leur richesse vient de la lagune. Quand ils pêchent, c'est vrai, ils en consomment une partie, mais ils vendent une partie aux autres peuples qui sont tout autour. Ils en vendent aux Abidji, ils en vendent, etc., tout autour de leur zone. Donc, c'est ça. Leur force, c'est la lagune. Mais aussi, c'est un peu leur faiblesse parce que c'est de là que quelquefois viennent les palabres, le partage de cet espace-là, qui est leur espace commun.
Entouré d'Adjoukourou, Adjoukourou, entouré de Aladjan, ils ne fêtent pas la fête des générations.
Si, eux aussi, ils célèbrent la fête des générations. Mais leur fête des générations aussi a des particularités. C'est quoi leur nombre de classes d'âge, quelquefois, de génération, ça va jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Mais c'est pour dire que c'est une culture qui est partagée, mais avec des particularités. Donc, et aussi, ils ont les classes d'âge qu'ils célèbrent. Donc, c'est cette culture-là, je peux dire, c'est une culture de toute la zone lagunaire ivoirienne qui est partagée. Et donc, à côté de cela, comme je l'ai dit là, vraiment, toute leur culture, leur économie est centrée sur la lagune. Et ça, c'est très important. Et comme les villages autour étaient autonomes les uns des autres, donc, il n'y a pas eu de conquérants qui puissent les rassembler. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand il y a un royaume né, le royaume ne naît pas ex nihilo. Ce n'est pas comme une herbe sauvage qui pousse seule. Non. Quand un royaume naît, il y a des gens ambitieux qui décident de créer un royaume. Mais tant que dans l'histoire d'un groupe ou d'un peuple, il n'y a pas eu quelqu'un qui ait eu cette ambition, en ce moment-là, les villages restent autonomes, indépendants les uns des autres, parce qu'il n'y a pas une tête politique qui va les coiffer tous. C'est ce qu'on a vu en pays Haïti. Et il y avait aussi cet esprit individualiste. C'est vrai. Je n'emploie pas le mot individualiste dans le sens d'égoïsme, non. Mais c'est que chacun veut jouir de son autonomie d'abord à l'intérieur de son village, jouir aussi de son autonomie économique et simplement avoir des rapports de convivialité avec les autres, mais chacun reste indépendant. Et ça, c'est pour ça que quand certains avant moi, surtout même les auteurs du Ghana tels que le professeur Adou Boyen et autres, ont dit que non, les Akans créent immédiatement des royaumes, que leur culture c'est de créer des royaumes, je me suis rendu compte que c'est pas vrai. C'est un de nos anciens maîtres, mais c'est pas vrai. Les royaumes se crée parce qu'il y a des individus qui ont l'ambition de créer le royaume. La preuve, même en prenant le cas des Ashanti, avant les villages en Ashanti étaient indépendants les uns des autres. Il y a même un proverbe en langue qui se dit que les Adansés sont comme des crabes. Chacun est dans son trou. Pour dire que chaque village était indépendant l'un de l'autre. Mais Osei Tutu, lui, il vient en ce moment-là. Sa petite chefferie, c'était la petite chefferie de Kwamagne. Mais lui, il décide maintenant de faire quoi? De les unifier. D'abord par des guerres, ou par des négociations, ou par des alliances. C'est comme ça que la Confédération Ashanti est née. C'est parce que Osei Tutu l'a voulu et puis celui qui a finalisé son projet, c'est son neveu Opoku Ware. Donc, c'est une affaire d'ambition d'individus qui décident de créer un royaume. Sinon, si ce n'est pas le cas, les villages restent autonomes les uns des autres, comme on l'a vu dans la plupart des villages lagunaires, chez les Aizi, chez les Aladjan, chez les Adjoukourou, chez les Abidji, chez les Abé. C'est ainsi.
On a tout dit ou presque. C'est la fin de cet entretien. Professeur Alokwa Merene, je voudrais vous remercier. À la fin de cet entretien concernant les Aizi, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. On a terminé.
Avec les Zootiles, je dirais que ce sont vraiment les maîtres de la lagune. Mais vous savez, pour pêcher, il faut avoir une connaissance technique. Il faut fabriquer des pirogues. Et quelquefois, ils avaient de grandes pirogues. Ce qu'on appelle les pirogues de génération qui peut prendre jusqu'à 100 personnes. Et puis, il faut confectionner les filets. Au départ, ce n'était pas les filets que les Européens emmenaient. Mais eux-mêmes, ils confectionnaient des filets avec des végétaux. On se servait même des nervures de l'ananas pour faire des filets. Et il fallait fabriquer les hameçons. Les hameçons, donc, il fallait avoir des connaissances dans le métier de la forge et de la métallurgie. Donc, ça demande toute une connaissance et ces gens-là avaient cette connaissance-là pour pouvoir pratiquer la pêche. Donc, pratiquer la pêche en soi implique différentes connaissances, différentes techniques. Voilà, et c'est ça qui a fait l'identité des Haïzi et de bien d'autres groupes lagunaires de la Côte d'Ivoire.
Merci, professeur Alou Kwame René.
Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffi et Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.